Alors bonjour
Bonjour,
d'abord,
bonjour.
heureux de vous accueillir. Un mot avant de parler du livre de Céline. Vous avez pris position dans divers organes et médias. Vous avez dit que vous étiez choqué qu'on ait retiré Céline des célébrations nationales. Mais est-ce qu'on a eu raison de l'y faire entrer ?
Mais voilà, c'est toute la question. Céline pourrait s'exprimer par table tournante, le diable lui-même. Et il vous dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Je n'ai rien à voir avec une célébration nationale. Je suis le maudit qu'il faut laisser soigneusement à l'extérieur de la moralité ambiante. Bien sûr, je ne serais pas le seul. Le marquis de Sade vous dirait la même chose, etc. Donc, non, il fallait pas le mettre. Mais alors, l'erreur, une fois qu'on l'y a mis, c'est de le retirer. Parce que tout ça fait un peu quand même va-et-vient du ministre de la Culture qui aurait pu s'informer avant et qui est resté assez piteux sur cette affaire. Donc voilà, je crois qu'il faut tourner cette page. Et alors, pour aborder le cas Céline, monstrueux, etc., etc., alors il faudrait une émission spéciale, nous n'avons pas le temps.
Ce qui est assez pervers dans cette histoire, c'est que le président de la République, très habilement, après avoir envoyé son ministre de la Culture à Canossa, a fait savoir que Céline était son écrivain préféré et que son cabinet s'était cotisé pour lui offrir une lettre manuscrite de Céline. Et alors, à sa conférence de presse, il a même ajouté que son livre préféré était D'un château l'autre. Alors, j'aimerais bien qu'on reçoive Nicolas Sarkozy pour l'interroger sur un D'un château l'autre, qui n'est pas le livre de Céline le plus facile à lire à mes yeux.
En tout cas, c'est du Machiavel. C'est-à-dire faire monter son ministre pour s'excuser et faire savoir par des membres de son cabinet que Céline est son écrivain préféré, le président de la République française, je dis bien, hein, et faire savoir qu'on lui a offert, que les membres de son cabinet se sont cotisés pour lui offrir une lettre inédite dont il faudrait savoir d'ailleurs si elle contient et de quelle date elle est. Vous voyez que nous sommes en plein brouillard. Donc là, j'attends que le jour se lève.
Écoutez, Alexis Lacroix.
Écoutez, hélas, effectivement, je suis obligé de corroborer l'avis concerté de Josiane et de Philippe Solers. Malheureusement, c'est un brouillard, c'est un pataquès tout à fait dommageable, mais c'est aussi révélateur, je crois, et peut-être que ça ira d'ailleurs à l'encontre même d'un certain nombre d'enthousiasmes littéraires de Philippe Solers. C'est révélateur aussi de l'incroyable relativisme moral dans lequel baigne notre époque. Le fait que Nicolas Sarkozy puisse proclamer à la face du monde que Céline est pour lui, au fond, le plus grand nom de la littérature française à retenir, ça veut dire qu'il fait une confusion, à mon avis, très préoccupante.
Il n'y a pas de dans ces domaines.
Certes, mais il fait une confusion très préoccupante entre la célébration éventuelle de l'œuvre d'un écrivain et la célébration du nom de l'écrivain comme personne. Et c'est évidemment, je trouve, moi, personnellement, à la base de cette entreprise. Le problème, c'est qu'on a confondu l'œuvre et l'homme. Et on a proposé une célébration de l'homme qui a...
Mais est-ce qu'on peut les disjoindre tout à fait?
Et de alors, tout point de vue déplacé.
Patrick Kechichian dans Le Monde cette semaine, il faut s'y opposer car il y a unité de la personne de l'homme et de l'écrivain. Refuser cette séparation, c'est d'ailleurs une manière de respecter l'écrivain, d'envisager sa parole comme intégralement responsable et son œuvre comme un ensemble cohérent.
Ça,
et
c'est
ça
du
s'appelle
sophisme de Cato.
Il faut s'opposer à la célébration d'un auteur antisémite.
C'est du sophisme de Cato, ce genre de truc. C'est respecter l'écrivain que l'exclure, etc. Enfin, je ne vois même pas pourquoi on commande cet article qui n'aurait jamais dû être publié.
Oui.
Philippe Solers.
Ça fait des 50 ans que ça dure. 60. Toute cette question est agitée périodiquement. Est-ce qu'un très grand écrivain peut être en même temps un salaud? Alors, vous allez mettre maintenant la définition du salaud. Moi, je veux bien qu'on admette le mot salaud. Mais qu'est-ce que c'est qu'un très grand écrivain? Est-ce que vous croyez que nous sommes dans une époque où tout régresse d'ailleurs, où les gens savent vraiment ce que c'est qu'un très grand écrivain? Non, on plaque la condamnation morale, pourquoi pas? Mais alors, il faut la plaquer en conséquence de ce qu'on dit par ailleurs, parce que c'est absolument contradictoire de dire que quelqu'un est un très grand écrivain. Alors oui, mais comment, pourquoi? Et puis là, vous découvrez une chose, cher ami, que vous pouvez vérifier tout le temps, c'est qu'il n'est pas lu, c'est comme si on n'avait rien lu du tout. Et c'est ça le problème de notre époque, c'est pas le problème moral, c'est le problème d'ignorance qui est en train de dévaster absolument tout. Je le vois pas tous les jours, je sais où je travaille et comment je fais ce travail d'édition, de lecture profonde. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une basse époque où, en effet, on n'a plus que des stéréotypes à servir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un très grand écrivain? Encore une fois, prenons le temps un jour, de traiter cette question, et voilà, avec une condamnation morale tant que vous voudrez. Mais alors, il faut aussi savoir pourquoi on continue à dire c'est un très grand écrivain, mais ça, c'est, voilà. Donc il faut s'entendre là-dessus. Ou alors c'est un très mauvais écrivain. Il faut non seulement c'est un salaud, mais c'est un très mauvais écrivain. Il ne faut pas toujours redire c'est un très grand écrivain avec Proust pour le 20e. Bon, il y a là quelque chose qui va pas.
Bah, le ministre de la Culture a dit c'est un écrivain génial avec son emphase. Mais je voudrais juste signaler ici qu'il y a un livre très intéressant là-dessus qui s'appelle Céline Scandale de Henri Godard et qui essaie de montrer justement qu'on ne peut pas dire d'un côté c'est un génie et un salaud, qu'il faut essayer de penser la chose, ce scandale en même temps.
Ariane Jangour.
Oui, non, mais c'est intéressant de voir comme quand on célèbre les écrivains, ça pose problème. Mais en effet, quand on les lit, ça ne pose jamais problème parce que Céline, on ne le lit plus beaucoup. Et peut-être, en effet, qu'il faudrait débattre sur ce qu'il a écrit. Je crois qu'aux États-Unis, en ce moment, on a retraduit les pamphlets et ça connaît un certain succès. Donc peut-être que la question est là et pas dans des célébrations un peu.
Oui, s'il a été traduit en hébreu, c'est pas pour rien. Et qu'il y a une génération de jeunes écrivains israéliens qui se réclament plus.
Le voyage est, oui, est mort à crédit.
Oui, alors, mais enfin, on ne peut pas séparer.
Excusez-moi, pour être bref sur cette question, Céline a écrit ses pamphlets qui circulent, comme vous savez, sous le manteau, ce qui est très malsain. Un jour, ils doivent être édités avec un appareil critique sérieux, et ce qui finira par avoir lieu. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le voyage. Alors, tout le monde est là à se prosterner sur le voyage au bout de la nuit.
Mais c'est raciste aussi.
Évidemment. Bon. Alors, après il délire. C'est
attendez. Bien sûr.
Après, Céline rentre dans son grand délire. Il faut savoir aussi, établir un peu l'histoire, que ça lui est arrivé après son voyage en Union soviétique. C'est-à-dire que Bagatelle, par exemple, ce livre énorme, monstrueux si vous voulez, pour les deux tiers est fait d'une dénonciation féroce de l'Union soviétique. Il était traduit là-bas par Elsa Triolet et Louis Aragon. Il a fait un voyage, il en est revenu en écrivant ce pamphlet qui s'appelle Mea culpa et qui est d'ailleurs, quelque chose d'une révulsion. À partir du moment où il a fait ses pamphlets, il s'est trompé, c'est évident. Enfin, ben, il s'est trompé sur l'antisémitisme, c'est clair. Mais le problème, c'est que tout le monde a décidé qu'il était mort après. Or, en 14 ans, depuis l'après-guerre, jusqu'en 1961, 50e anniversaire de sa mort, il a écrit des livres, mais absolument extraordinaires, sublimes. Il n'aurait pas dû pouvoir écrire. Donc, c'est d'un château l'autre, c'est Nord, c'est Rigaudon, etc. C'est un peu comme la même chose quand les Américains ont décidé que Picasso était mort après la guerre. Il fallait faire de la propagande pour la peinture américaine. Picasso n'existait plus. Or, le vieux Picasso a été d'une créativité considérable. Qu'est-ce que c'est que la création? Qu'est-ce que c'est que la littérature ou la peinture? Il faut voir. Mais pour ça, il faut prendre du temps.
Il y avait un célèbre critique littéraire qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Arnold Mandel, qui était un grand admirateur de Céline et qui disait « Céline, pris par un D-book ». C'était un D-book antisémite.
Mais c'était
un vrai D-book.
C'est bien vu,
il ne s'est pas trompé, il a écrit des saloperies.
Oui, et c'est très bien vu cette image de Mandel, qui n'a peut-être pas été d'ailleurs totalement irréprochable sous la Deuxième Guerre mondiale lui-même, mais en tout cas il a bien vu ce qui est arrivé à Céline. Et je rejoins évidemment aussi ce que dit à l'instant Philippe Solers, ce qui est intéressant dans la trajectoire politique, politico-éthique de Céline, c'est que plus il est progressiste, plus il est antisémite. Philippe Murel l'avait très bien montré dans son livre. C'est-à-dire que...
Plus il est anticommuniste.
Ouais,
attention.
Mais plus il est progressiste. Plus il est progressiste, sur un mode qui n'est pas pro-soviétique, on est d'accord, hein, mais plus
c'est
il veut...
C'est le moins qu'on puisse dire.
Plus il rêve d'éliminer du monde tous les baciles. Et évidemment, le bacille numéro un, si j'ose dire, c'est les Juifs.
Mais il y a un universitaire israélien qui s'appelle Claude Gandelman qui a écrit des choses absolument magnifiques sur Céline dans une revue, où justement, il parle de cette espèce de fascination-haine pour le juif et que son sarabat avait quelque chose à voir.
Alors, il y a du diabolique avec... là-dedans, nous sommes tout à fait d'accord. On peut être possédé, et il faut savoir ce que c'est qu'un cas de possession, puisque si je traduis d'e-book, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et je suis désolé d'une chose, c'est que Céline ne soit pas là, en duplex, là, pour parler de moi.
Mais alors, on va essayer de suppléer Céline, ce qui est assez difficile.
Mais Stendhal n'est pas là non plus pour parler de vous.
Si, Stendhal est là, justement. Stendhal est là.
Alors, nous parlons de Trésor d'amour. Et la première question vous est posée, Philippe Solers, par Ariane Jeancourt.
Oui, Philippe Solers, c'est vrai que vous savez, nous, on a beaucoup aimé à Transfuge votre livre Trésor d'amour. On lui a rendu hommage, etc. Mais ce qui est intéressant, je crois, dans Trésor d'amour, c'est ce retour à la légèreté que vous faites après quand même un certain nombre de livres et un certain nombre d'années d'écriture. C'est assez hors du commun, je trouve. Et est-ce que c'est sur le modèle de Stendhal que vous le faites, d'ailleurs, ce retour à la légèreté dans votre œuvre, comme ça?
Écoutez, je ne sais pas si c'est un retour à la légèreté, parce que je n'ai pas eu l'impression d'être très, très, très lourd dans les 25 dernières années. Donc, vous voyez, moi, peut-être il y avait peut-être une surcharge un peu pondérale dans ce que j'écris. Là, j'ai resserré les choses, la concision avant tout, la concentration, parce que c'était le sujet vraiment du livre. Et alors, c'est peut-être ça qui vous a paru plus léger. D'une certaine façon, d'ailleurs, je dirais qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être dans la légèreté et dans une certaine forme de désinvolture ou d'ironie ou de concentration minimum. Les gens parlent trop, les livres sont trop longs, ils bavardent beaucoup, ils sont pas vraiment écrits, c'est pour ça qu'on les entend mal. Et là, si vous avez eu cette impression, c'est que vous avez compris que c'était un livre qui s'entendait. C'est-à-dire, autrement dit, musicalement, il faut pas... C'est très simple, il faut ouvrir un livre et savoir s'il y a une voix qui vous parle. Moi, vous savez, je reçois beaucoup de manuscrits dans la semaine, chez aux éditions Gallimard. J'ouvre les manuscrits, c'est sourd, il n'y a personne qui me parle. Voilà. Donc, peut-être, c'est ça, cette impression de légèreté, c'est que ça, vous l'avez entendu, je vous remercie.
Josiane Zavi.
Moi, je crois que ce qu'Oriane voulait dire aussi, et qui a été relevé par beaucoup de gens, dont Jean-Paul Antoven dans Le Point, c'est qu'il y a dans ce livre une espèce de cet aspect de note tenue. Enfin, je m'explique, je pense que très souvent dans vos livres, par exemple, si je prends La Fête à Venise, qui est un livre que j'aime beaucoup, pendant le premier paragraphe qui se termine, enfin les premiers paragraphes qui se terminent par cette petite planète par plaque à son intérêt, il y a une écriture parfaitement classique, comme si vous disiez au lecteur, bon ben vous voyez, je sais très bien faire ça, et donc maintenant on va passer à autre chose. Et vous aviez une écriture souvent qu'on pouvait qualifier de cubiste, votre admiration pour Picasso n'est pas pour rien là-dedans. Et je pense que dans ce livre-là, vous avez renoncé à cette écriture cubiste pour avoir une espèce de note tenue d'un bout à l'autre du livre. Alors, je ne sais pas si c'est influencé par Stendhal, qui a cette espèce de sérénité dans ce livre. Mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et j'ai vu que Jean-Paul Antoven disait un peu la même chose dans son article du Point.
Je crois que c'est pas mal de voir quelles sont les pointes extrêmement importantes d'une langue qui est en cours de disparition. C'est le français. Alors, Stendhal, de ce point de vue, est un maître, parce que toujours concision, concision, concision. Et j'ai tout relu, il ne faut pas que le travail se sente. Merci pour la légèreté, mais c'est un très gros travail de relire tout Stendhal avec attention, les écrits intimes, etc. Je pense simplement à l'exemple des privilèges. Deux ans avant sa mort, Stendhal écrit ce petit traité qui a été révélé très tard par Victor Del Lito en 1961, Les privilèges. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a reçu un mandat, un brevet. Il laisse court son imagination. Il est à Rome. Il a reçu un brevet de God. Il dit God. Il ne dit pas Dieu. Il ne dit pas Yahvé non plus. Il dit God à l'anglaise. Et donc, c'est ce God qui lui donne un brevet, qui lui permet d'avoir une ouverture d'imagination extraordinaire. Il se donne les privilèges. Il peut faire ça, se déplacer, tourner une bague. Une femme tombe amoureuse de lui. Il retourne la bague. Elle revient à une simple bienveillance, etc. C'est un texte fabuleux. C'est les mille et une nuits. Donc, ce sont des petits articles très courts qui ouvrent un champ d'imagination considérable. De même, De l'amour, qui est le livre que j'ai relu attentivement, c'est un petit traité qu'il a écrit au crayon fébrilement après son histoire à Milan avec cet amour fou, ce qui est un amour, tout simplement, vous savez, c'est très simple, c'est l'Italie. C'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de Venise, de la fête à Venise. Je vous signale au passage que, étant donné l'affaire Battisti, les gens qui ont soutenu Cesare Battisti, les écrivains, vont avoir leur livre interdit dans la Vénétie. Donc ça me préoccupe un peu quand même, puisque la fête à Venise, ou Trésor d'amour, tout ça se passe à Venise, risque de disparaître des bibliothèques de Venise. Alors vous voyez, passer 40 ans à explorer Venise dans les moindres recoins et apprendre tout à coup que vos livres vont être interdits, vous voyez qu'on n'est pas dans une époque favorable.
Alexis Lacroix.
Bon, écoutez, j'ajoute ma voix modeste à ce concert de louanges. D'abord, Philippe Solers, pour vous dire que la lecture de votre livre est fabuleusement appréciable, mais c'est aussi peut-être un objet de réflexion sur vous. Visiblement, ça n'est pas d'hier que vous prenez pour Stendhal, pour le meilleur d'ailleurs, mais ce qu'on remarque, évidemment, c'est que votre narrateur, c'est-à-dire votre alter ego, n'est pas éconduit par ses maîtresses, ni évidemment par Lamina Viscontini qui occupe vos pensées, à l'inverse de Stendhal, dont on sait qu'il avait subi une rebuffade décisive de la part de sa Mathilde, qui le conduisit à l'écriture de son essai sur la théorie de la cristallisation. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, dans ce Stendhal revisité, un peu de Freud, un peu de freudisme, et notamment son assimilation assez troublante.
Mais il est question de Freud, de la relation de Freud à Rome, oui. D'une manière générale.
Non, mais ça, c'est... Oui, mais surtout, est-ce que c'est pas un Stendhal revisité par l'interprétation freudienne de l'amour comme étant, en fait, une castration à tous les coups, une épreuve de la castration?
Écoutez, justement, c'est un essai pour faire comprendre que l'amour est au-delà des concepts en question, que c'est quelque chose qui peut s'analyser tant qu'on veut, mais quand ça ne va pas, quand il y a embarras. Mmh. Embarras, ça veut dire divan. Embarras, ça veut dire roman familial. Embarras, ça veut dire tout ce qu'il s'entend tous les jours sur les divans d'analyse, et Dieu sait s'il s'en dit. Là, il s'agit de tout autre chose, et c'est la raison pour laquelle j'ai introduit le personnage de Freud en Italie. Il s'agit d'un éblouissement spécifique qui est lié à l'art de vivre en Italie. Le charme, en fait, j'ai fait un peu scandale, ça m'a été reproché par des psychanalystes, de montrer que Freud, voyageant avec sa belle-sœur Mina, ça fait couler beaucoup d'encre, Mina, comme le prénom de l'héroïne de Trésor d'amour, eh bien, il est extraordinairement ébloui. Il est comme Goethe. Ces gens venaient du Nord, enfin, un peu, voilà. Ils ne connaissaient pas l'Italie. Comme Stendhal, qui sort de la campagne de Russie, qui est ébloui par l'Italie, et qui a un grand amour italien, ça ne réussit pas. Moi, je pense qu'on peut réussir d'une autre façon, deux siècles après. Mais enfin, c'est intéressant, d'ailleurs, de prendre une distance comme ça. Bon, l'éblouissement italien. De quoi s'agit-il?
Dans les villes, d'ailleurs.
Alors, c'est venu pour Stendhal, c'est Milan, c'est Rome. Il se fait enterrer en italien, ce qui est un scandale pour le corps diplomatique français, puisqu'il était consul. Un consul ne se fait pas enterrer en italien, milanaise. Hein, voilà. Donc, tout ça est quand même extrêmement intéressant. Et je vous dis, je préférerais que mes livres ne soient pas interdits maintenant en Italie.
Mais justement, après avoir longuement exploré le malentendu entre les hommes et les femmes, est-ce que vous explorez la possibilité d'une entente entre les hommes et les femmes?
C'est pas le premier livre où ça a lieu. Et il y a la fête à Venise, d'ailleurs. Il y a l'étoile des amants, etc. Il y a les deux. C'est-à-dire, moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire un relevé. Je suis un homme de terrain, ou de mer, à faire un relevé de tout ce qui s'est passé comme mutation depuis 20-30 ans entre les hommes et les femmes. Donc il y a les aventures négatives et il y a des aventures positives. On parle presque jamais des aventures positives, je me demande pourquoi.
Et quand vous parlez du fait qu'il faut faire entendre, je voudrais faire entendre quelques phrases. Il fait escale à Venise, rend visite à Mina Viscontini, cherche dans son regard celui de son amour de jeunesse, me félicite, non sans mélancolie, de ma chance au jeu de la vie. Nous allons écouter Don Giovanni alla Fenice, Phénix et Féminin en italien. Et voici que la musique et les voix font voler le théâtre et toute la lagune avec lui. On sort, on marche un peu dans la nuit, on prend le bateau, l'eau nous enveloppe, tout est velours, tout est gratuit.
C'est ça.
Gratuit.
L'amour est gratuit. C'est ce qui le rend si dangereux pour une société comme la nôtre, affoler le calcul, affoler le profit, affoler le résultat. L'amour, c'est gratuit, c'est l'amour libre, vous comprenez, c'est la liberté. Alors, si c'est gratuit, c'est suspect. La société a horreur de ça.
Alors, il y a l'amour, il y a les hommes et les femmes, il y a surtout Philippe Solers, parce que vous écrivez « Le roman, c'est bien, mais l'observation de soi en train d'écrire, c'est mieux. »
Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on trouve, justement, chez Stendhal. C'est cette formulation étrange. Il a vécu, il a écrit, il a aimé. Son cousin n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il a mis, il a écrit, il a aimé, il a vécu. Bon, non. C'est-à-dire que c'est dans cette expérience d'écriture, c'est très intéressant de regarder ce qui arrive dans la vie des écrivains, parce que leur vie même, c'est l'écriture.
Non, c'est intéressant.
Toute dernière question, oui. Il nous reste une minute.
Mais justement, votre passion pour les écrivains, vous avez cristallisé Nietzsche dans Une vie divine, là c'est Stendhal, d'où vient cette passion éternelle pour les autres ?
Les autres, c'est moi.
Je croyais que c'était Madame Bovary. Oui, Alexis.
Le seul aujourd'hui, d'après vous, dans la littérature française contemporaine qui résiste, qui arrive à élever une digue contre la pulsion de mort, vous pensez que c'est vous ?
C'est pas à moi de le dire, c'est au riverain.
Trésor d'amour, c'est un roman qui paraît chez Gallimard. Philippe Solers, merci.